be or not to be, not to be.
C'est pas tous les jours qu'on rencontre une légende de la bande dessinée. Batman, Superman, Wonder Woman, les X-Men, les 4 Fantastiques, les Wildcats, Divine Wright, le Punisher, l'homme en face de moi a littéralement tout dessiné. Peu d'artistes incarnent autant que lui la quintessence de la BD américaine. Et c'est à l'occasion de la sortie d'un documentaire qui retrace l'histoire de la maison d'édition DC Comics, intitulé Superpowered, sur Warner TV Next, que l'on a le privilège de rencontrer cet immense monsieur qui est Jim Lee.
Thank you very much for having me.
Yeah, merci de m'avoir invité. C'est un endroit fantastique pour évoquer mon travail. C'est une très belle ville, très inspirante, donc je suis très content d'être ici.
Oui, je trouve ça plutôt bien.
Oui, je vous le dis, si vous vivez ici, à la longue, vous pouvez devenir insensible, mais pour moi, rien que déambuler dans une rue au hasard, apprécier l'architecture, le design, le son de la ville, me remplit de joie et me donne envie de m'asseoir et de créer.
Une personne dans Paris qui est heureuse.
Alors, ma première question... À quel âge avez-vous découvert le comic book?
C'était probablement vers 5 ans.
Parce que nous avons quitté la Corée du Sud où je suis né pour déménager aux États-Unis. Et chez un coiffeur où mon père m'avait emmené pour me faire une coupe, il y avait une table remplie de BD pour faire patienter les enfants en attendant leur tour. Et je ne parlais pas anglais, mais les comics, ce sont des images qui, si les artistes ont bien fait leur travail, permettent de faire comprendre l'histoire sans savoir ce que les dialogues racontent. Après avoir regardé les images, je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est que ces ballons blancs, ces rectangles jaunes? Et donc j'ai appris à lire et à comprendre l'anglais à travers les comics. Et de là, je me suis mis à lire les publicités, le courrier des lecteurs. J'ai consommé le tout encore et encore, et j'ai encore ces comics aujourd'hui. Ils sont déchirés, j'ai mis du scotch pour faire tenir la couverture.
Est-ce que vous avez remercié le coiffeur?
Oui, le coiffeur a été la véritable origine de mon succès.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce médium?
Ce qui m'a séduit dans le médium...
À l'époque, il n'y avait pas de gros blockbusters pleins d'effets spéciaux. Il n'y avait rien dans les médias jusqu'à bien plus tard. Peut-être occasionnellement une série télé comme Batman 66, que je n'ai découvert que plus tard lors d'une rediffusion. J'ai vu le dessin animé Superman quand j'étais tout petit en Corée. Oui, de Max Fleischer. Donc c'est ainsi que j'ai découvert Superman. Mais je pense que cela ne ressemblait à rien d'autre. Et à un niveau inconscient, ça a été pour moi un moyen d'échapper à la pression d'être dans une nouvelle culture où tu te sens continuellement jugé parce que tu es différent.
C'était votre forteresse de solitude à vous?
Ça l'était à 100%, je le crois vraiment. Je ne l'avais pas réalisé jusqu'il y a peut-être 2 ans. Je pensais juste que c'était des histoires cool et fun. Des histoires fun et divertissantes, mais à un niveau inconscient plus profond, c'était ma forteresse de solitude. C'était un endroit où, quand je m'asseyais pour lire un comics, j'échappais à tout ce qu'il y avait autour de moi et j'ai eu le même sentiment d'échappatoire en dessinant mes propres images. Quand tu dessines quelque chose, tu plonges dans cet univers et tu n'entends ni ne vois. Un peu comme les jeunes avec leur téléphone aujourd'hui. Quand tu es là-dedans, tu deviens imperméable à ton environnement. Et j'avais ce même sentiment d'évasion dans les livres que j'ai lus, mais aussi quand j'ai créé mes propres œuvres.
Est-ce que vous vous êtes immédiatement dit que vous vouliez devenir artiste?
Je le pense.
Je ne savais pas qu'on pouvait être payé pour dessiner.
Vous êtes payé?
Oui, quand j'avais peut-être 10 ans, j'avais un dessin d'un Hulk à moitié fait et j'ai vu dans une BD Marvel qu'il y avait une adresse, donc j'ai envoyé le dessin à Marvel. Je pensais qu'ils allaient m'embaucher. Vous savez, les enfants ne savent pas comment marche le monde. Mais ils m'ont envoyé une réponse très gentille. Ça a l'air prometteur, persévère. Mais dans mon esprit, j'ai toujours su que c'était ce que je voulais faire. Bien sûr, j'ai été dans une prépa privée pour garçons, puis je suis allé au collège. Mon père était médecin, donc il voulait que je sois docteur. Donc je suivais plus ou moins leur plan, mais secrètement, dans le fond de mon crâne, je me disais, j'aimerais vraiment dessiner des comics.
Alors évidemment, la grande question, c'est comment ça a été accueilli par vos proches, et notamment votre père?
Comment il l'a découvert ?
Oui, car il voulait que vous deveniez médecin également.
Mes deux parents le voulaient. Et ils étaient du genre à m'acheter une lampe, à la mettre dans ma chambre et à dire « On t'a acheté cette lampe pour que tu étudies plus dur et que tu deviennes médecin. » Tout était comme ça. Voici une sucette, profites-en parce que, tu sais,
tu vas devenir médecin.
Tu pourras te permettre d'acheter autant de sucettes que tu veux si tu deviens médecin. Tout tournait autour du fait de devenir médecin. Mais à la longue, ils ont dû reconnaître mon intérêt pour les comics. J'étais un fanatique, je les lisais encore et encore, je dessinais tout le temps. Et il a fallu attendre jusqu'à mes junior years au collège, j'avais 19 ou 20 ans, pour que je leur confie que je ne voulais vraiment pas devenir médecin, que ce n'était pas ma passion, que ça ne me faisait pas vibrer, que j'aimerais dessiner des personnages en sous-vêtements, en train de voler dans le ciel. Ils ont été très dubitatifs. Ils n'ont pas été très heureux de cela. Il y a beaucoup de conversations très difficiles, beaucoup de cris, de pleurs, des larmes de colère. Mais ils ont fini par réaliser à quel point c'était important pour moi. Donc, ils m'ont donné une échéance. Donc, je leur ai dit, donnez-moi un an pour voir si je peux trouver du travail dans l'industrie du comics. J'ignorais totalement comment le faire. Mais j'ai dit, donnez-moi un an, et si ça ne marche pas, je retombe dans une école de médecine.
Et est-ce qu'après avoir constaté votre succès, ils ont dit, oh, on l'a toujours su?
Non. Je vais vous dire à propos de ma mère. Dès que j'ai eu du travail, la première tâche que l'on m'a confiée, elle était ravie. J'ai eu le coup de téléphone dans la cuisine, je lui ai dit, on s'est tenu la main, on a fait une petite danse dans la cuisine, je me souviens de ça, donc... Ils n'ont pas été déraisonnables. Une fois qu'ils ont compris que l'on pouvait être payé pour faire ça, parce qu'ils pensaient que les artistes étaient des gens qui n'avaient pas les moyens de se nourrir, éternellement pauvres, obligés de se couper l'oreille. C'était un futur qu'ils ne voulaient pas pour moi. Mais une fois qu'ils ont vu que c'était un vrai métier, et puis quand les livres ont commencé à sortir, ce sont devenus mes plus grands fans. Et c'est devenu un peu embarrassant pour moi. Par exemple, on allait au restaurant, ils disaient « Voici notre fils, c'est un célèbre artiste de comics ». Et moi, je voulais juste commander à manger. Et mon père a commencé à ramener des bandes dessinées de l'hôpital qui appartenaient à des infirmières avec lesquelles il travaillait et qui étaient fans de comics. Il me ramenait des livres à signer. À Thanksgiving, pendant les vacances. C'était une convention Comic-Con tous les jours à la maison. S'il vous plaît, stop. Ils se sont passionnés pour le sujet.
Finalement, vous êtes devenu médecin par les images.
Je n'avais jamais vu les choses ainsi, mais c'est intéressant car, un peu comme vous, vous l'avez fait en me partageant votre histoire personnelle au début de cet entretien, j'ai rencontré beaucoup de fans qui m'ont dit qu'ils étaient passés par des moments très compliqués durant leur enfance et que ça avait été un échappatoire similaire pour eux. Donc je pense qu'il y a évidemment un peu de vrai là-dedans et c'est vraiment touchant, très émouvant. Je dessine des comics parce que j'aime leur narration, leurs personnages. Mais tu réalises plus tard qu'ils servent de modèle, que tu inspires des gens. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit « J'ai lu vos comics et désormais je suis devenu graphiste, je suis devenu dessinateur de mode, quoi que ce soit. » Parce qu'ils ont vu dans mon travail quelque chose qui leur a parlé si profondément qu'ils ont voulu le faire eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a un héros ou une héroïne que vous n'aviez de cesse de dessiner ?
Oui, je pense que les X-Men étaient probablement mes préférés, mais j'ai aussi dessiné Batman. Vous savez, c'était intéressant quand j'étais très jeune, peut-être 8 ou 10 ans, j'étais plus attiré par les personnages de DC, parce que c'était des histoires plus enfantines. Et puis, quand je suis devenu adolescent, j'étais plus intéressé par les trucs de Marvel. Et puis plus tard, quand George Perez et Marvel Wolfman ont fait New Teen Titans, et puis évidemment le milieu des années 80, avec Dark Knight Returns, Watchmen... Shadow of DC, ça m'a époustouflé. J'ai donc fait des allers et retours entre les deux sociétés. Je dirais qu'à ce stade, j'aime les bandes dessinées en général, peu importe qui les publie.
On vous a connu via Marvel, mais j'ai le sentiment que votre cœur a toujours été chez DC Comics. Qu'est-ce que ces héros représentent pour vous ?
Je pense qu'ils représentent beaucoup de choses différentes. Très clairement, à un tout premier niveau, ce sont des divertissements. Ce sont des histoires qui sont censées vous attirer et vous téléporter dans un autre monde, même si ce monde ou le monde de Gotham City Ça vous raconte une histoire faite de hauts et de bas dans lesquels le héros suit un chemin avec une fin vraiment cool. Je pense que tout cela, c'est en surface, mais à un autre niveau plus profond, je pense que ce sont des histoires avec lesquelles vous vous connectez émotionnellement. Vous vous voyez vous-même dans ces personnages. Peut-être que vous pouvez comprendre le traumatisme que ces personnages ont vécu et vous voyez comment ils les ont surmontés. Et je pense que c'est une grande partie de l'attrait de ces bandes dessinées. Que ce sont tous des personnages qui ont subi des traumatismes et ce sont les choix qu'ils font ensuite dans la vie qui les transforment en héros ou en méchants. Alors assurez-vous de prendre les bonnes décisions. Et puis, je pense qu'encore plus profondément que ça, ils servent de soutien psychologique ou même d'évasion pour beaucoup de gens. J'ai rencontré des fans qui considèrent ces personnages comme leurs frères ou leurs sœurs. Ils ont une place très importante dans leur vie. Donc je pense que ces héros fonctionnent à bien des niveaux.
Vous avez dessiné quasiment toutes les grandes stars de ces maisons d'édition, chez Marvel et DC Comics. Qu'est-ce qui les différencie selon vous ?
C'est intéressant. Je pense que les personnages de Marvel ont vraiment touché une corde sensible auprès du public au milieu des années 60, parce que leurs personnages avaient tellement de faiblesses, de défauts. Ils ressemblaient beaucoup à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Même lorsqu'ils avaient de grands pouvoirs, ils avaient aussi de grandes responsabilités, et quelquefois leurs pouvoirs eux-mêmes étaient des malédictions, comme chez les X-Men. Ils ont ces dons incroyables, mais ils ont l'air bizarres ou ils ressemblent à des monstres. Et ils se sentent rejetés. Et je pense qu'en tant qu'adolescent, ça a résonné en moi parce que tu traverses beaucoup de changements durant cette période. Mais je pense que les personnages DC Comics sont plus emblématiques. Ce sont des incarnations de vertu. Ils sont plus iconiques à cause de cela. Donc, quand vous pensez à Superman, vous pensez à la vérité, à la justice. À Batman, vous pensez à la justice. Wonder Woman, à la passion, à la compassion et à la vérité. Ce sont des valeurs vraiment puissantes et je pense qu'à bien des égards, ils sont très attractifs pour les gens, très inspirants. Et vous pouvez voir à quel point il y a un besoin pour ce genre de personnages mythologiques. De bien des manières, ils sont notre mythologie moderne.
J'ai rencontré pas mal d'artistes qui ont tous cette particularité d'avoir un truc qu'ils adorent dessiner et un autre truc qu'ils détestent. Ma question, c'est qu'est-ce que vous adorez dessiner ? Qu'est-ce que vous détestez dessiner ?
Je pense que j'aime dessiner les personnages très durs comme Wolverine ou Batman, mais aussi les personnages plus ludiques comme les acolytes des héros comme Jubilee ou Robin. Parce que j'ai l'impression que la simple juxtaposition de l'obscurité avec la lumière est vraiment fascinante. Vous savez, c'est leur manière de bouger qui transmet vraiment leur personnalité les uns par rapport à l'autre, et c'est ce qui rend les choses vraiment intéressantes. Ce que je n'aime pas dessiner, je pense l'avoir déjà dit, je n'aime pas dessiner les costumes trop compliqués. Or, j'ai créé pas mal de costumes compliqués, donc c'est plutôt ironique. Je ne suis pas un grand fan du dessin d'animaux. Je peux le faire, mais il faut connaître l'anatomie de chaque animal. Ça ressemble à l'anatomie humaine, mais pas tout à fait. Les pattes qui se plient en arrière, comme chez une chèvre. Ils bougent de manière très différente. Dessiner un cheval puissant au galop est très différent d'un dessin d'homme ou d'une femme forte en train de courir. Il faut beaucoup de documents et de travail pour pouvoir dessiner cela. Donc oui, il m'est déjà arrivé de dessiner des animaux, mais je ne suis pas un grand fan de ça. Il y a aussi les caricatures. Pour moi, c'est presque une autre discipline artistique à part entière. Comment vraiment dessiner quelqu'un d'existant ? Je dois deviner dans ton dessin quoi exagérer et sur quoi mettre l'accent pour que cela fasse plus réel. Pour moi, c'est une science intéressante. Plus tu dessines les choses telles qu'elles sont, moins ça ressemble à la personne. Plus tu les exagères, leur donnes un aspect cartoon, plus ça va capturer l'essence de celui ou celle que tu dessines.
Je pense à G. Scott Campbell.
Oui, il est incroyable pour dessiner des caricatures. Il y a deux semaines, je faisais une caricature pour un employé de Warner Bros. Qui prenait sa retraite et j'ai envoyé à G. Scott Campbell quelques photos de mes dessins pour qu'il me fasse un retour et qu'il me donne quelques idées. Et il m'a donné quelques conseils très utiles, quelques ajustements à faire.
La première fois que vous vous êtes retrouvé sur une série mensuelle, comment vous avez géré la pression des deadlines ?
Au tout début, je me suis assuré de respecter mes deadlines pour faire bonne impression, car je voulais garder mon travail. Je voulais être connu en tant qu'artiste fiable, car évidemment, si vous n'êtes pas fiable, ils vont trouver un autre artiste qui, lui, l'est. On dit qu'un artiste a besoin de trois choses, et tu dois en avoir au moins deux sur trois. Tu dois être vraiment bon ou talentueux. Tu dois respecter tes deadlines, ou tu dois être cool et sympa. Vous pouvez décider quelles sont mes deux qualités sur trois. Ce sont les choses les plus importantes à respecter. Et au fil de ma carrière, c'est devenu de plus en plus compliqué de respecter mes deadlines, car je me suis de plus en plus impliqué dans tous les aspects business de mon métier. Et soudain, quand j'ai créé Wildstorm, j'ai été écartelé dans de multiples directions. Dans une journée ordinaire, je pouvais dessiner un petit peu, puis relire un contrat d'une licence d'exploitation, puis aller dans une réunion pour parler de ce que l'on allait faire avec une série animée. Mon temps était vraiment découpé, mais c'est le défi, je crois. J'ai découvert que si je ne fais qu'une chose, j'ai tendance à m'ennuyer. Je n'ai pas encore trouvé la solution pour réussir à tout concilier, si ce n'est faire ce qui me plaît le plus et espérer que ça se fasse au mieux.
Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui a eu une influence sur votre style ?
Je crois que c'est un mélange de tous mes artistes favoris, mais aussi de l'absence de mes artistes les moins favoris. Quand j'étais enfant, il y avait des artistes que j'aimais comme Frank Miller, John Byrne, Kevin Nolan, Mac Mignola, Barry Windsor-Smith, Arthur Adams. La liste pourrait s'étendre. Mais il y avait également des artistes que j'aimais moins, mais j'ai mis un point d'honneur à savoir ce qui ne me plaisait pas dans leur travail. Est-ce que c'est parce qu'ils dessinent les mêmes bouches, qu'il n'y a pas assez de détails, ils n'utilisent pas beaucoup d'ombrage ? Pour moi, mon style est une synthèse de tout ce que j'aime, mais aussi de tout ce que je ne trouve pas aussi séduisant. Donc, au final, j'ai appris de mes artistes les moins favoris comme de ceux que j'aime le plus.
Et vous pouvez nous donner des noms ?
De mes artistes les moins favoris ? Non, ce ne serait pas gentil. Mais laissez-moi vous dire qu'en devenant plus âgé, quand on est plus jeune, on est absolu en matière de ce que l'on aime ou déteste, comme avec la musique par exemple. On peut en venir aux mains sur une chanson qu'on aime ou qu'on déteste. Et en vieillissant, tu deviens plus nuancé, plus sage, tu deviens plus tolérant. Et même les artistes que je n'aimais pas étant enfant, je vois désormais leur savoir-faire dans leurs dessins. Je vois des tas de choses que je ne voyais pas étant enfant. Je crois que j'aime tout désormais.
Ça change avec le temps.
Absolument. C'est la chose merveilleuse en vieillissant. Tout le reste craint, mais ça, savoir qu'en vieillissant, on peut acquérir ce genre de sagesse de savoir que tout n'a pas besoin d'être tout blanc ou tout noir.
Quel souvenir avez-vous gardé de vos passages sur la Division Alpha et sur Punisher War Journal ? Qu'est-ce que le Jim Lee d'aujourd'hui dirait au Jim Lee d'hier ?
Achète des actions Apple ou des actions Amazon dès qu'elles seront disponibles. Artistiquement, c'était des jours très excitants. Parce que votre cerveau était comme une éponge. Tout ce que vous le faisiez pour la première fois. Et avoir à l'apprendre personnellement pour la première fois. Et je n'avais pas de méthode, si je puis dire. Donc j'ai expérimenté différentes manières de créer mon art. Je me souviens avoir lu que Neil Adams dessinait ses croquis en tout petit, puis les agrandissait avec une machine appelée autographe ou quelque chose comme ça, pour ensuite redessiner par-dessus. Et j'ai essayé ça, mais ça n'a pas vraiment marché pour moi. D'autres dessinaient à l'arrière d'une page, la retournaient et s'en servaient comme arrière-plan de la composition finale. J'ai essayé ça aussi. Je suis passé par beaucoup d'erreurs et de tâtonnements pour comprendre exactement ce que j'étais en train de faire. J'apprenais chaque page. Chaque fois que je dessinais quelque chose pour la première fois, une certaine pose, un mouvement de main. C'était une période intense d'apprentissage et d'absorption. Et quand j'ai fait Punisher War Journal, j'ai commencé à m'ancrer moi-même, donc il a fallu que j'apprenne ça par moi-même. Et quand je me suis retrouvé sur X-Men, j'ai commencé à co-scénariser, à écrire de plus en plus. Et c'était un autre champ d'expertise qui m'a époustouflé. C'était des années très formatives. Mais 6 premières années, c'était un peu comme essayer de boire à une lance à incendie. C'était tellement d'informations.
Je pense que je m'y suis pris de la bonne manière dans le sens où j'étais demandeur d'apprendre. À chaque fois que je rencontrais un artiste professionnel plus vieux et plus expérimenté, je lui demandais quelle était sa façon de travailler et j'essayais d'en tirer des leçons. C'était l'Internet avant l'Internet, un Internet humain. C'était comme une recherche Google. Chaque humain était une recherche Google. Tu pouvais leur poser des questions et ils te donnaient des réponses.
Et puis, il y a votre passage sur les X-Men qui est entré dans la légende, avant même le fameux X-Men 1. Moi, je me souviens de Lady Mandarin, Captain America et Black Widow, les X-Men dans l'espace avec Deathbird. X-Men 1 qui s'est quand même vendu à 8 millions d'exemplaires. Quel était votre état d'esprit à l'époque? Et est-ce que vous étiez conscient que vous étiez en train de définir ces super-héros pour des décennies dans l'esprit des gens?
Non, pas vraiment.
Je veux dire, je voyais bien que ça plaisait à la communauté des fans, parce que je voyais d'où on était parti en termes de ventes sur les X-Men, et cette augmentation jusqu'à 8 millions. Et puis quand on allait en convention et que l'on voyait concrètement le nombre de fans en train de faire la queue pour avoir un autographe qui ne cessait de grandir.
Et ma maman.
Et ma mère qui était dans la queue. Mais je n'ai pas vraiment pensé à ce que cela représentait, l'impact que ça aurait des décennies plus tard. Et honnêtement, les histoires que j'ai faites sur les X-Men, je crois que j'essayais d'imiter les histoires de mes artistes favoris. J'aimais ce que Chris Claremont, John Byrne et Dave Cockrum ont fait. Donc on a fait les Broods, l'Empire Shi'ar, la Terre Sauvage. Je voulais retourner en arrière et dessiner ça car c'était un moyen pour moi de retrouver mon enfance et d'expérimenter à nouveau ce genre de choses. Et ça me stupéfie que 30 ans plus tard, 30 ou 40 ans, 30 ans, notre travail est aussi essentiel pour les fans aujourd'hui qu'il ne l'était pour nous à l'époque. Et je ne m'y attendais pas du tout, donc c'est une surprise très agréable et une heureuse conséquence.
Et soudain, avec d'autres grands noms de l'industrie, vous décidez de quitter Marvel pour créer Image Comics. Ça a été un tremblement de terre, je m'en souviens très bien à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé précisément dans votre tête à ce moment-là?
Vous savez, nous étions tous au milieu de la vingtaine, donc vous devez savoir qu'à cet âge-là, on a l'impression d'être un adulte, mais rétrospectivement, nous n'étions qu'une bande de gosses. Vous savez, quand on est plus jeune, on a tendance à être intrépide. On a le sentiment d'être invulnérable, donc ça ne me surprend pas que nous ayons pensé pouvoir tout faire par nous-mêmes. Nous ne le pouvions pas. Honnêtement, nous ne savions rien sur rien. Donc, nous sommes partis et aucun de nous n'avait jamais monté une entreprise avant. J'avais fait un peu de publication au collège. J'avais travaillé au journal de l'école et sur le livre annuel. Donc, je comprenais les mécaniques du fonctionnement, mais comment engager des gens? À la fin, 120 personnes travaillaient pour Wildstorm. Donc, une fois de plus, comme pour les 5 premières années d'apprentissage du dessin, il m'a fallu 5 ans pour démarrer ma propre entreprise. J'ai dû comprendre ce qu'étaient les ressources humaines, comprendre ce qu'il fallait faire pour payer les gens. À quoi sert le marketing? À quoi sert le département des ventes? À quoi sert la publicité? Donc c'était un petit peu un crash test et nous avons fait toutes les erreurs que nous pouvions humainement faire. Mais on a appris de cela. C'était comme aller dans une école de commerce, mais dans la vraie vie, et c'était une expérience vraiment folle.
Est-ce que c'est un souvenir que vous chérissez ou un moment difficile?
C'était très difficile. Mais vous savez, je pense que le cerveau humain, pour se protéger, préfère se rappeler de toutes les bonnes choses. Les traumas ont tendance à être refoulés, oubliés. Donc il y a eu beaucoup de défis, mais mes souvenirs de tout cela sont très bons.
Vous avez créé le studio Wildstorm, les Wildcats, Divine Right, vous avez invité des auteurs tels que Warren Ellis ou Alan Moore, vous aviez les plein pouvoir, une totale liberté créative et éditoriale. Qu'est-ce qui vous a amené à retravailler avec Marvel via Heroes Reborn, mais aussi céder Wildstorm à DC Comics?
Je crois que le stress du changement, le paysage économique du moment qui change aussi, les comics ont connu un énorme essor. Et nous pensions que ça durerait toujours. Nous ne savions pas que c'était un cycle économique. Donc, quand les choses ont commencé à changer, j'ai commencé à réaliser qu'il me fallait prendre une grande décision.
Est-ce que je continue à m'investir dans l'entreprise en espérant qu'elle tienne bon? Ou est-ce que je trouve un partenaire qui va m'aider à continuer à la faire grandir? J'ai donc commencé à réfléchir aux compagnies avec lesquelles on pouvait s'associer, et DC Comics a été une de celles qui s'est dit intéressée par l'acquisition de Wildstorm. Et quand je parle d'un partenaire, je parle surtout d'une entreprise qui avait les ressources, mais aussi le capital, l'argent et les employés. Le marché était en train de passer des numéros individuels périodiques aux livres reliés à imprimer. Il y a un nombre minimal d'exemplaires à imprimer. Si vous éditez un livre, vous ne pouvez pas en éditer un seul. À l'époque, c'était au moins 3 000, mais il n'était pas dit que vous alliez les vendre. Donc, basiquement, vous achetiez un inventaire en espérant qu'il se vende. Donc, il y a un risque inhérent dans cette logique. Mais si vous avez une entreprise qui a une perspective à plus long terme et le capital pour encaisser les hauts et les bas du marché, il était plus facile pour DC Comics de tout convertir en livres et de les diffuser dans le temps. Et c'était quelque chose que, personnellement, je ne pouvais pas faire avec le capital dont je disposais. Et donc, c'était vraiment un très bon partenariat, car ils ont pu assurer la transition de notre business, des périodiques à un mélange du numéro mensuel et de livres. Ils avaient également accès à une équipe plus étendue. Ils avaient 5 personnes pour gérer la publicité, là où nous n'en avions qu'une. Par conséquent, avoir ce genre de soutien nous a permis de nous concentrer sur ce que nous faisions de mieux, la création de contenu, la dramaturgie. Et eux s'occupaient du business, du marketing, des ventes, la production.
Vous avez parlé du marché. Et est-ce que le public a évolué au fil des ans entre vos débuts et aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a changé selon vous?
Oh, it continually changes. I think
ça change continuellement. Je pense qu'une des choses sur lesquelles on peut définitivement compter, la seule constante, c'est qu'il y aura du changement. Et je pense que c'est une chose que l'on ne réalise qu'après des décennies dans le métier. Si quelqu'un m'avait dit à mes débuts en tant que mentor, il va falloir que tu réalises que rien ne restera jamais comme avant, que quelque chose qui a du succès aujourd'hui n'en aura plus d'ici 3 ans, ne sera plus ni important ni populaire. Que tu as continuellement besoin d'évoluer, besoin de te réinventer, toi, ton travail et ton modèle économique. Et ça, je l'ai appris de la plus difficile des manières, vous savez. Nous sommes un peu à la traîne des tendances, mais maintenant que je dirige DC avec notre équipe, nous savons que c'est l'avenir. Donc, nous essayons désormais de diversifier notre portfolio de sources de revenus, si je peux parler en langage économique. Oui, nous avons des comics périodiques, mais nous avons aussi des livres qui se vendent en librairie. Nous avons un marché mondial, mais nous avons aussi des plateformes digitales avec un service d'abonnement. Mais nous proposons également du contenu Webtoons, qui a plus de 10 millions de lecteurs sur la surface du globe. Nous établissons des partenariats avec des entreprises telles que Kodansha, avec lesquelles nous produisons des mangas japonais. Tout un tas de tonalités très différentes de ce que nous proposions traditionnellement. Mais il s'agit aussi de trouver un nouveau public, comme par exemple celui des romans Young Adults, qui est un autre marché à part entière. Le marketing y est très différent, les ventes sont différentes. Les gens que vous embauchez pour créer du contenu sont différents, et c'est la beauté de DC. Nous avons les ressources et les gens capables de mener une bataille sur plusieurs fronts et de déployer ainsi nos forces.
Est-ce que vous pensez que dans la très longue histoire de DC Comics et du comic book en général, les artistes, dessinateurs et scénaristes ont été équitablement reconnus?
Oui, je le pense. Je pense que c'est le cas. Il y a toujours des choses à améliorer. Il est certain que durant les premiers jours de l'industrie du comics, il y a 30, 40, 50 ans, personne n'était crédité sur les couvertures de comics. Même dans les années 80, ici, je ne sais pas. Sur celle-ci, il n'y a pas de nom sur la couverture. Bref, ils sont passés de ces personnes anonymes qui créent le contenu et qui avaient peut-être ce petit encart sur la première page à ces gens qui ont désormais leur nom sur la couverture, connus des réseaux sociaux et qui peuvent même avoir leur nom au générique des films eux-mêmes. Donc je pense que ces gens sont reconnus pour leur contribution. Mais je pense qu'il y a évidemment encore de la place pour améliorer les choses. Je pense que nous sommes continuellement en train de rappeler aux gens que tous leurs jeux vidéo favoris, leurs films et leurs séries télévisées, ces personnages, ils ne se sont pas créés tout seuls. Ils appartiennent à des entreprises ou de grosses corporations, mais ce sont des humains véritables qui les ont créés dans les années 30. Et ce sont des générations de créateurs et de créatrices qui se sont juchés sur leurs épaules et ont participé à la création du monde immersif et écrit ces histoires que vous aimez et chérissez.
L'histoire de DC Comics est intimement liée à l'histoire des États-Unis et à sa politique, mais aussi au nouveau médium. Par exemple, la kryptonite est apparue à la radio, Superman s'est mis à voler à la télévision, Harley Quinn est apparue dans un dessin animé, d'autres ont découvert vos designs dans le jeu vidéo DC Universe Online. Quelle place a encore le comic book dans cet univers cross-média ?
Je pense que ce sont les exceptions à la règle. Je pense que ça montre qu'il y a un écosystème dans lequel il y a le matériel source. Ce qui est canonique, la continuité principale réside dans la publication et est ensuite adaptée dans des médias. Des personnes très créatives adaptent ces histoires et les modifient selon leurs propres besoins parce que leurs films ont un début, un milieu, une fin. Tandis que les comics, eux, continuent encore et encore, éternellement. Et ces créatifs ont besoin de créer des personnages qui servent ces objectifs particuliers. Et quand nous, dans l'industrie BD, nous voyons ces personnages incroyables, nous voulons les réintégrer dans la continuité canonique, parce que nous les aimons également en tant que fans. Et ainsi, c'est une sorte de magnifique jeu d'échange. Et on prend l'inspiration d'où qu'elles viennent. Une des choses les plus cool dans le jeu vidéo, c'est quand vous voyez les personnages utiliser leur pouvoir. Ils peuvent représenter des trucs très difficiles à dessiner, mais qui vont influencer toute la prochaine génération de créateurs. Parce que dans leur esprit, c'est désormais à cela que ressemble la vision calorifique de Superman. Et donc, ils vont essayer de l'incorporer dans leur propre page de bande dessinée. Mais le cœur canonique de ces personnages réside dans la BD.
La cross-plateformisation, c'est-à-dire cinéma, télévision, jeux vidéo, de la Trinity DC Comics... Est-ce que c'est selon vous un atout ou un handicap pour le travail des artistes de BD ?
Oh, yeah, the media
the mix between
I think it's an enhancement.
Je pense que c'est un plus.
There's nothing, I think, I've had a lot of my ideas or characters that I created.
Beaucoup de personnages créés en bande dessinée sont apparus dans d'autres médias. C'est toujours fun, c'est vraiment cool. Parce que, vous savez, vous touchez un public plus large qui ne lit pas forcément des comics.
I find it personally very cool to see the ideas sort of adapted, and it's really cool when you meet directors.
Et je trouve ça personnellement très cool quand vous rencontrez un réalisateur et qu'il vous dise, oui, quand j'étais gosse, je lisais vos comics et ils ont influencé mon travail. Et ça me stupéfie parce que quand j'étais gosse, quand je dis gosse, je parle de mes 20 ans, quand je créais ces histoires, je le faisais pour moi-même, pas dans l'espoir qu'un jour un réalisateur un peu cool tombe dessus et se dise « c'est trop bien, je vais faire un film avec ces designs ». Comme avec les X-Men 97 qui vient tout juste de sortir. C'est vraiment très flatteur qu'ils aient choisi ce moment de mon passage sur les X-Men pour les adapter et les mettre à l'écran, c'est cool.
Via le documentaire Superpowered, on découvre l'importance que certaines femmes ont eue dans l'histoire de DC Comics. Janet Kahn, Karen Berger. Quelle est la place de ces artistes, femmes, dans l'histoire du comic book ? Et est-ce qu'elles ont toujours été visibles ?
Je ne pense pas qu'elles aient toujours été visibles. Par contre, elles ont toujours été là. Pas dans les proportions dans lesquelles nous sommes désormais, mais elles ont toujours eu un impact profond. C'est une mauvaise idée reçue de penser qu'elles n'ont jamais été là. Ceci dit, c'était une industrie principalement occupée par des hommes pendant plusieurs décennies. Je pense que c'est dans les 10 dernières ou 20 dernières années que les choses ont changé, et c'est un petit peu notre étoile polaire d'amener plus de diversité et de représentation, non seulement dans les pages des histoires que l'on crée, mais aussi parmi les décisionnaires, les éditeurs et les exécutifs, et qui font que la communauté créative va aussi être un miroir de la diversité que nous cherchons à avoir dans nos livres. Et pas parce que nous aurions un agenda particulier. Je pense qu'au bout du bout, nous voulons juste que les comics soient le reflet du monde dans lequel on vit et de la communauté de fans mondialisés que nous avons. Et je pense que c'est vital que les lecteurs et les fans puissent se connecter émotionnellement à ces personnages. C'est une chose importante.
And what do you think about all these readers who say?
Et qu'est-ce que vous pensez de ces lecteurs qui disent je ne veux pas de politique dans mes comics, pas de diversité?
Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que la politique et les comics ont toujours été une partie intégrante de la narration depuis le premier jour. Superman ne combattait pas juste des méchants, il se battait pour les petites gens. Il combattait un système bancaire corrompu et les forces de l'autorité.
Il tentait d'apporter la liberté et la justice. Et je ne sais pas comment tu peux avoir ce type de discours sans parler de politique. Je pense qu'il y a une différence entre avoir un message sous-jacent à l'intérieur d'une histoire divertissante et... Je pense que ce qu'ils critiquent, c'est quand un personnage est utilisé pour être le véhicule d'un point de vue politique ou singulier. Et ça, je le comprends. Je pense que nous devons, avant toute autre chose, être divertissants. S'il y a un message en plus, tant mieux. Parce que vous savez, quand Stanley a créé Black Panther, quand DC a créé Nubia en 1972 ou 1973, il s'agissait de représentation. Et ces personnages parlent de vérité et de justice. Et quand vous parlez de vérité et de justice, pourquoi avoir besoin de justice ? Parce qu'il existe un système corrompu et injuste. Et qui a créé ce système ? Ce sont des figures d'autorité politique. Donc, je ne sais pas comment séparer les deux. Mais je pense que vous ne voulez pas être didactique dans votre message. Et c'est là le défi.
Batman a 85 ans, il est plus en forme que moi.
Yes,
he looks great.
Batman a été écrit de plein de manières. Comment on explique cette élasticité narrative en contraste avec Superman et Wonder Woman?
There is a slapstick Batman, a Lego Batman, Dark Batman,
sure.
Dark and Greedy.
But they've all gone through
ils sont tous passés par différents changements. Et je pense quand on publie, on veut devancer la tendance, ou bien la suivre, car c'est là que sont les ventes et l'intérêt. Il est certain que dans les années 60, il y avait beaucoup d'activisme social dans le pays, et ça s'est reflété dans les histoires aussi. Je veux dire, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, de bien des façons, comme Green Arrow ou Green Lantern. Ils ont fait un voyage à travers le pays, où ils ont dû se confronter au racisme, au corporatisme, à la société consumérisme. Ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été des sujets de fond. Et il y a aussi des moments où ils ont été plus légers et plus clownesques, comme quand Batman 1966 est apparu. Batman était très ridicule pendant un moment. Et puis dans les années 70, il est devenu plus sombre et urbain. Et puis évidemment, dans les années 80, avec Frank Miller, c'est devenu encore plus sophistiqué dans la narration. Et je pense que c'était à l'image de ce que les gens recherchaient à ce moment de leur vie. C'est pourquoi je pense que c'était un instinct de survie. C'est un modèle économique. Je pense que nous voulons être pertinents, et pour être pertinents, nous devons être le reflet de l'époque dans laquelle nous publions. Je pense que ça montre également l'élasticité de ces personnages. Vous pouvez faire un Batman ridicule, et vous pouvez aussi faire un dessin animé pour enfants, Batwheels, et vous pouvez faire un film Joker, qui est destiné à un public très adulte. Je pense que c'est une des qualités de l'univers DC et que nous avons un large spectre de contenu qui, grâce à l'élasticité de nos personnages, peut plaire aux fans les plus jeunes, mais à des adultes également.
DC Comics a été à l'origine du concept multiverse avec Crisis on Infinite Earths. C'est un concept qu'on retrouve non seulement chez la concurrence, mais aussi à la télévision, au cinéma. Et à un moment, on commence à parler de super-héros fatigue. Est-ce que c'est un concept réellement adaptable sur grand écran ?
Oui, je pense qu'il a eu un peu de mal au démarrage. Peut-être que c'était trop tôt, peut-être que, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce n'est pas que, vous savez, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent pourquoi certains films n'ont pas été bien reçus. Personnellement, j'aime le multiverse. C'est un concept qui m'a époustouflé quand j'en ai entendu parler, alors que j'avais 10 ou 11 ans. J'étais là, quoi ? Ça m'a vraiment fait me questionner sur la réalité et me demander peut-être que c'est vraiment possible. Et je me pose encore les questions aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quelque chose de spécifique dans les comics, et particulièrement dans la continuité qui les rend difficilement accessibles pour un large public. Parce que, vous savez, DC publie depuis maintenant 90 ans. Il y a énormément de continuité, donc c'est très complexe. Et ce n'est pas très accueillant de dire à un nouveau fan que pour comprendre ce personnage, il va falloir lire des décennies d'histoire. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de défis à relever pour les réalisateurs, les showrunners et également les scénaristes de comics. Comment prendre ce contenu si complexe et le rendre aux nouveaux fans ? Donc je pense que c'est une correction de course. Vous savez, les films de super-héros ont connu un énorme essor et soudain, boum, on a rencontré une série d'obstacles, de défis. Les gens sont intelligents, les gens sont super créatifs, abordables et séduisants. Ils vont trouver un moyen de s'ajuster et de se réinventer. Et les fans qui sont peut-être fatigués, et aussi du fait qu'il y a trop de contenu, il y a certainement du vrai là-dedans. Mais je pense que c'est un des symptômes du succès, et cela fait sens que l'on ait atteint un point où il y en a trop, et où il va falloir évidemment en faire moins. C'est une relation, je donne et je prends.
Le manga est très populaire en France. Lorsqu'un animé a du succès, en général, son manga aussi a du succès. Pour les films de super-héros, un succès, par contre, ne se traduit pas systématiquement par une augmentation des ventes. Pourquoi, selon vous ?
Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons. Ce que nous constatons, c'est que pour que cela ait un vrai impact sur les publications, cela doit atteindre un certain seuil. Une série télé, même avec 1 million de spectateurs, ne se traduira pas forcément par énormément de gens achetant des comics. Et si vous avez un gros film blockbuster, généralement on voit une augmentation des ventes de nos publications. Mais pas n'importe lesquelles. Vous ne pouvez pas sortir une mauvaise histoire de Batman en espérant qu'un bon film de Batman sorte et porte les ventes. Quand nous constatons une augmentation, c'est toujours sur nos meilleures histoires de Batman. Parce que les gens qui aiment Batman à cause du film vont venir dans un magasin et demander « je voudrais des histoires de Batman » et le vendeur intelligent va généralement les diriger vers les meilleures histoires, n'est-ce pas ? Batman Year One, The Dark Knight, La Cour des Hiboux. Et donc ces livres, et sans discuter nos meilleures archives littéraires, sont Batman, Watchmen. Et ce sont sur ces titres que l'on voit une réelle augmentation. Quand Sandman est sorti sur Netflix, nous avons vu une énorme augmentation de ventes. Parce que c'est Neil Gaiman, et les histoires de Sandman sont incroyables. Donc cela signifie que ce n'est pas n'importe quoi qui va se vendre. Le très bon matériel va voir une augmentation des ventes, et c'est ainsi que l'on construit notre stratégie.
Jim Lee, encore une question. Est-ce qu'il y a un personnage ou une histoire qui vous tient à cœur et que vous n'avez toujours pas dessiné ?
Il y en a plein. En fait, on vient d'organiser un déjeuner avec quelques fans d'albums comics et j'ai partagé avec eux quelques histoires que je veux encore raconter. Et je pense que c'est bien. Vous savez, parce que je me dis à quel point ça serait triste de ne plus avoir d'histoires à raconter. C'est ce qui vous motive à vous lever le matin. C'est ce qui fait que vous pouvez encore vous enthousiasmer pour ce métier. Le potentiel que pourrait donner quelque chose. Et c'est super d'avoir ces escapades possibles et d'avoir les moyens et l'habileté de prendre ces idées et de les transformer en dessins et en histoires bien concrètes. C'est une vraie bénédiction. Je me sens très chanceux de pouvoir faire ça. Je serais très triste s'il y avait un jour où je me réveillais en me disant « ça y est, j'ai fini, je n'ai plus d'histoire à raconter ». J'aurais l'impression que c'est la fin de la vie en elle-même.
Encore une chose, juste pour savoir, est-ce que vous avez appris à vos enfants à dessiner et est-ce que vous dessinez avec eux ?
Tous mes enfants dessinent, mais ils ne vont prendre aucun conseil ou instruction venant de moi. Vous savez, vous êtes leur père avant tout. Ils sont à fond dans les mangas. Je laisse traîner plusieurs exemplaires de DC Comics. Vous savez, un petit peu comme des pièges à souris. Ils aiment les mangas, ils aiment ce qu'ils aiment et ça fait sens. C'est leur génération. Occasionnellement, ils vont écouter un conseil ou deux, mais ils me voient comme un vieux type qui n'a rien à leur apprendre. Mais je les observe. Ils apprennent des choses des vidéos YouTube, des tutos, d'autres artistes sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment talentueux, mais ils ne veulent pas apprendre des choses de moi. Bien que notre fils, qui a 23 ans, est en train de lancer son propre comic book intitulé Wallow. Et lui, j'ai pu lui donner quelques conseils niveau business. Donc, j'ai pu lui donner quelques conseils professionnels et aussi artistiques, parce que je pense qu'il a réalisé qu'à un certain âge, on est toujours résistant à ce que les parents vous racontent, parce qu'ils ne sont pas tellement cool, n'est-ce pas ? Et puis à un carrefour, tu deviens adulte, et tu te dis qu'il y a peut-être un peu de vérité dans ce qu'ils t'ont dit, et tu deviens plus réceptif, alors
Donc c'est plutôt super de voir ça également.
Mais ils veulent pas que ça se sache.
Je ne leur en tiens pas rigueur. Vous savez, quand j'étais gamin, je n'étais pas des plus sympas vis-à-vis de mes parents quand j'étais adolescent. Et quand j'étais diplômé collège, j'ai réalisé, tu sais quoi ? C'était de super parents qui m'ont toujours beaucoup soutenu. J'étais idiot, j'étais un imbécile. Donc je sais que cela fera aussi partie de leur futur. Merci pour cette incroyable interview et d'avoir fait toutes ces recherches et posé ces questions. C'est la mienne aussi. Merci beaucoup. J'ai adoré. Merci.
Blockbuster est un podcast original de France Inter.